Elle a été tuée par son mari.
Par son mari ?
Ah oui, il est en prison, encore.
Il va décapsuler une bière après avoir commis l'irréparable.
C'est bien beau de porter plainte, mais ça aide pas.
Il n'y a personne qui aurait sauvé ma mère. Personne.
Très souvent, une fois que le tapage médiatique est passé, on a tendance un petit peu à oublier les faits.
Qu'est-ce que je dois vous dire ?
Les familles de féminicides, nous prenons, nous, perpétuité.
Ma maman, le but, c'est qu'elle repose en paix.
À la ville, nous sommes tous anonymes. Comment vous dire qu'à la campagne, c'est totalement inverse ?
Féminicide à Oberhofen-sur-Moder. Un podcast des étudiants du QEJ, promotion 2024. Épisode 6. Tendre l'oreille. La solitude de ceux qui restent semble immense. Stella aussi la ressent. Souvenez-vous, Stella, c'est la fille de Sylvia Horter, tuée par son conjoint, le 10 novembre 2019. Elle arrive sur les lieux au moment où sa mère est tuée. Elle meurt dans ses bras. Désormais, Stella se retrouve seule. Dans ces cas-là, les associations militantes sont des soutiens utiles, voire indispensables, pour tenir psychologiquement. Stella fait alors le choix de se tourner vers Sylvaine Grévin. Sylvaine est présidente et fondatrice de la Fédération nationale des victimes de féminicide, la FNVF. Sylvaine a elle-même perdu sa sœur en 2017. Elle sait que ce qui attend Stella est un véritable parcours de la combattante.
Les jeunes majeurs, et bien souvent, sont complètement aussi laissés pour compte parce que là, il n'y a pas de prise en charge, par exemple, avec la protection de l'enfance. Hein. Par exemple, lorsque une proche, en fait, meurt et qu'elle avait des enfants mineurs, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'est pas le cas pour les jeunes majeurs. Et donc, Stella, à l'époque, en fait, s'est retrouvée toute seule. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'après le décès de sa maman, eh bien, sa maison, elle a été mise sous scellé. Donc, Stella est venue vers nous à ce moment-là, et nous l'avons accompagnée, nous l'avons conseillée tout au long justement de la procédure. Et puis, au moment du procès, nous étions là pour la soutenir, parce qu'un procès aussi, c'est très très violent, la soutenir psychologiquement. Donc, un procès aux assises, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est très très violent pour les victimes, parce que tout s'y joue. Là, moi, j'étais personnellement présente aux côtés de Stella, parce que je savais que ça allait être un procès difficile. Elle avait d'ailleurs aussi beaucoup de ses amis qui était là, et c'était une bonne chose.
Jackie Walter, le meurtrier de Sylvia Horter, est jugé en janvier 2022. Un procès aux assises, ça peut durer parfois plusieurs jours. Dans le cas de Jackie Walter, ça a duré 3 jours. 3 jours au cours desquels les magistrats, les avocats, les experts et les témoins ressassent à tour de rôle les épisodes les plus douloureux de la vie de Sylvia Horter, jusqu'à son décès tragique. Des images prises au cours de l'enquête, en particulier au moment de l'autopsie, sont montrées au public, et donc aux proches. Les associations comme la FNVF se donnent pour mission d'accompagner les familles de victimes à traverser cette étape très lourde psychologiquement. 17 ans, c'est la peine moyenne prononcée à l'encontre des auteurs de féminicides. Le 14 janvier 2022, Jackie Walter est finalement condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Une peine acceptable pour Maître Bordron, l'avocat de Stella et sa famille. De son côté, la Fédération nationale des victimes de féminicide l'estime insuffisante. Alors comment la faire accepter aux victimes ?
Il s'est pris 20 ans, et effectivement, on était quand même très, très choqués parce que 20 ans, par rapport à la nature du meurtre, un féminicide, vous savez que c'est passible de la perpétuité, c'est jamais appliqué, hein, jamais. Voilà. Nous, notre travail, c'est de leur faire comprendre que dans tous les cas, c'est de se dire que l'auteur a été reconnu coupable devant une cour d'assises. Mais effectivement, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les familles de féminicides, nous prenons, nous, perpétuité. C'est la réalité, parce que notre proche ne reviendra jamais. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la loi soit appliquée, tout simplement. La loi prévoit la perpétuité dans le cadre d'un meurtre par, commis par conjoint. Donc, dans la réalité, comment ce n'est jamais appliqué. Ce qu'on demande, c'est même aussi au-delà de cette condamnation, c'est d'avoir un suivi sur la durée concernant ces auteurs, même lorsqu'ils sortent de prison. Parce qu'on a on a vu cette année, par exemple, un auteur de féminicide qui est sorti de prison, qui a fait 14 ans de prison, qui est ressorti et qui a tué à nouveau une belle compagne.
Ce genre de procès peuvent attirer des personnes anonymes, sans lien avec la famille. Elles viennent chercher des conseils ou font le choix de s'engager auprès de l'association.
J'avais été très, très surprise par cela, c'est-à-dire finalement d'avoir des personnes qu'on ne connaissait pas, qui sont venues spontanément soutenir cette jeune fille, Stella, et venir nous voir pour aussi avoir des conseils et potentiellement aussi s'engager à nos côtés. On a aussi une femme qui, elle, comment dire, était victime de violences conjugales, qui est venue vers nous pour qu'on puisse, comment dire, l'aider et la conseiller. Donc on est, par exemple, toujours en contact avec elle, typiquement.
Ce travail militant, surtout depuis le mouvement MeToo, entamé en 2017, semble produire des résultats. Il aide à la fois les proches et rend le problème des violences conjugales plus visible.
Je prends souvent des Uber et souvent, bah, par exemple, je suis au téléphone pendant la coupe. Et après, souvent, les Uber me disent « Ah bah tiens, ma cousine, bah voilà, elle est victime de violences conjugales, ah les féminicides. » Et on sent quand même, le terme féminicide, il est quand même très souvent utilisé, on sent quand même que c'est passé dans la société. Les gens ne peuvent plus ignorer ce que c'est qu'un féminicide.
Un constat repris par Maître Maxime Bordron.
Beaucoup plus de choses sont mises en place de par la justice, de par les formations auprès des services de police, auprès des services de gendarmerie qui connaissent maintenant parfaitement les violences conjugales et les conséquences que ça peut amener. Et maintenant, il y a une meilleure formation, mais il n'y a pas encore assez de moyens qui sont mis en avant pour éradiquer finalement ce phénomène qui ne devrait pas exister.
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2022, plus de 30% des victimes de féminicides ont subi des violences antérieures de la part de l'auteur. Parmi ces victimes, deux tiers avaient déjà signalé les faits auprès des autorités. Pour Lorraine Descartes, l'une des journalistes françaises travaillant le plus sur les féminicides, c'est ce cycle de violence qu'il faut savoir prévenir pour éviter l'irréversible. Elle en parlait en début d'année 2023 sur France Inter.
L'accès à la preuve, il est extrêmement compliqué si jamais on n'a pas une lecture de tout ce climat et de ces années et de repérer la violence aussi dans ses détails et dans ses formes de contrôle.
Depuis la mort d'Elisabeth Buchholz à Oberhofen-sur-Moder, le 9 novembre 2015, un peu plus de 1000 femmes ont été tués par leurs compagnons ou ex en France. En 2022, le nombre de violences conjugales recensées a lui augmenté de 15%. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de violences conjugales autour de vous? Avez-vous prêté attention aux signes avant-coureurs? Cette collègue qui se fait humilier en public par son conjoint? Cet homme qui interdit à votre ami de sortir? Cette tante qui vous parle de violentes disputes trop régulières? Ou encore celles qui n'ont pas accès à leur argent. Ne sous-estimez pas ces situations. Et si vous avez besoin d'aide, appelez le 3919. Cet épisode a été imaginé par Kilian Bigogne, Jade Lacroix, Alexia Lamblay et Zoéder Chopin. Voix: Zoéder Chopin. Production éditoriale: Iris Dereux et Mathilde Mélin.